réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, Philippe est avec nous pour nous parler de Ferrari, Philippe, ça va être intéressant.
Ferrari, comme on l'a mentionné, qui célèbre cette année son 70e anniversaire, donc tout a commencé en 1947. Mais oui. Comme tu l'as sans doute déjà remarqué, Daniel, hein, j'aime les récits linéaires. On va commencer par le début. Okay. Enzo Anselmo Ferrari, de son nom complet, vient au monde en 1898 dans les faubourgs de Modène. Ça, c'est en plein cœur d'une région, l'Émilie-Romagne, qui va devenir, et ça en grande partie grâce à lui, là, le berceau du haut de gamme de l'industrie automobile italienne. Et le premier virage important dans la vie d'Enzo Ferrari, c'est quand il assiste, à l'âge de 10 ans, à sa première course automobile. Il est avec son frère à ce moment-là et leur père. Et ça, ben, ça m'amène à vous parler aussi des drames qui vont parsemer le destin d'Enzo Ferrari, parce que c'est vraiment une tragédie à l'italienne par moment. D'abord, oui, mais c'est vrai. Oh, okay. Regarde ça. Enzo, d'abord, le jeune Enzo va perdre son frère et son père la même année, en 1916. Ils sont tous les deux emportés par la maladie. Les versions varient. Là, on parle de pneumonie, d'épidémie de grippe, là, mais c'est dans ce...
C'est des maladies.
Oui, c'est de cet ordre-là, tiens. Et l'année suivante, en 1917, ben, la Première Guerre mondiale n'est pas encore terminée. Et là, le jeune Enzo Ferrari est enrôlé par l'armée italienne. Par contre, il va éviter d'aller au combat parce que sa tâche consiste à ferrer les mulets qui sont utilisés par l'armée. Puis là, pas les mulets comme en course automobile.
Oui, c'est ça.
Non, non, des vrais mulets, des, là, voitures, des ânes. Oui, ben, c'est très utile dans les régions montagneuses, mais il faut dire
ouais.
aussi que ça fait 100 ans. Hein?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça, exactement. Et là, ben, après la guerre, Enzo Ferrari va être démobilisé. Puis là, ben, il essaie de trouver du travail à Turin, puis après ça à Milan, parce que ce sont les deux grosses villes industrielles du nord de l'Italie. Puis c'est à Milan, finalement, qu'il va se trouver un emploi qui... encore une fois, va être un virage important pour lui, un tournant. Là, il est engagé comme pilote d'essai et ensuite comme pilote de course pour CMN, qui est un constructeur qui n'existe plus, là. Puis à partir de là, les choses vont vraiment débouler. En 1920, Enzo Ferrari est embauché par Alfa Romeo, qui est déjà une marque prestigieuse et à laquelle il va être associé pendant près de 20 ans. D'abord comme pilote... et ensuite comme directeur sportif. Ouais, je ne sais pas si tu te souviens, mais on en avait parlé aussi quand on avait fait l'historique d'Alfa Romeo à notre deuxième émission. Et là, ben, on est en 1920, et 9 ans plus tard, donc en 1929, là, il va créer la Scuderia Ferrari. Scuderia qui veut dire écurie. Mais, attention, il ne va pas rompre ses liens avec Alfa Romeo pour autant. Au contraire, il va continuer de gérer, comme en sous-traitance, là, la division course d'Alfa Romeo. Et là, c'est à ce moment-là que le fameux cheval, le cheval cabré, le Cavallino Rampante, c'est là qu'il va devenir l'emblème de Ferrari. C'est une comtesse, la comtesse Baracca, qui est la mère de Francesco Baracca, qui est un as de l'aviation italienne, qui lui propose d'utiliser le cheval cabré qui était peint sur l'avion de son fils qui est mort au combat en 1918. Et c'est à partir de là que...
Oh.
Ferrari. En fait, tu vois un peu l'insigne Ferrari, le bouclier jaune.
Ben oui.
Jaune, c'est pour la couleur de la ville de Modène, où Ferrari est installé d'abord et d'où il est originaire. Et le cheval noir, il vient. C'est vraiment l'emblème qu'il y avait sur l'avion de Baracca.
Ah
oui. Enzo Ferrari, finalement, va quitter Alfa Romeo 10 ans plus tard, en 1939, mais il a une clause de non-concurrence. Sauf que cette période de non-concurrence va coïncider avec la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la guerre, la nouvelle usine d'Enzo Ferrari, de toute façon, va être réquisitionnée pour fabriquer du matériel militaire. Alors, c'est donc après la Seconde Guerre mondiale qui va devenir officiellement constructeur. Plus précisément, le 12 mars 1947, C'est là que la première Ferrari, la 125S, roule pour la première fois. Et deux mois plus tard, le 25 mai plus précisément, elle va gagner sa première course aux mains du pilote Franco Cortese, et ça, c'est le Grand Prix de Rome. Et à partir de là, les succès vont s'enchaîner. Là. Ferrari va gagner les Mille Miglia en 1948, les 24 heures du Mans l'année suivante, en 1949. Ferrari, ensuite, va se lancer dans l'aventure de la Formule 1. La Formule 1, ça commence en 1950. Ferrari gagne son premier Grand Prix en 1951 et deux championnats consécutifs en 1952 et 1953. Alors vraiment, on peut dire que ça
des
part...
Des débuts prometteurs.
Ouais, ça part fort, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, il y a une autre tragédie qui va frapper Enzo Ferrari. Puis ça, c'est indiscutablement la plus grande, la plus douloureuse de sa vie. En 1956, son fils Alfredo, qui est surnommé Dino, qui est aussi son successeur désigné, va mourir à seulement 24 ans. Il va mourir de la dystrophie musculaire. Et à partir de là, Enzo Ferrari est dévasté. Il s'en remettra jamais complètement. Puis c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il va commencer à vivre de plus en plus reclus. Il va diminuer sa présence aux courses automobiles, puis finalement, il va finir par ne plus y aller du tout. Et il sort à peu près plus de Maranello à partir de ce moment-là. Mais juste avant la mort de Dino, les Ferrari, père et fils, ont eu le temps de concevoir, avec l'aide d'un ingénieur légendaire, le Vittorio Giannu, qui est très, très important dans l'histoire d'Alfa Romeo et de Ferrari. Alors, les trois hommes ont eu le temps de concevoir le célèbre V6 Dino, qui va être utilisé autant en compétition que dans les voitures de série. Et après la mort de son fils, Enzo Ferrari va se désintéresser de plus en plus des voitures de production. Lui, il se concentre vraiment sur son écurie, la Scuderia, qui devient en plus, à partir de ce moment-là, là, vraiment sa seule raison de vivre. Il faut dire une chose, Daniel, hein? Quand Enzo Ferrari était pilote, il avait décidé d'arrêter d'être pilote à cause de la naissance de son fils. Hey. Alors, quand son fils meurt, c'est vraiment ça. Il perd un peu sa raison de vivre, ou en tout cas, la seule qui lui reste, c'est vraiment son écurie. Mais même s'il se désintéresse du côté production, il veut quand même que la marque Ferrari lui survive. Puis pour assurer la pérennité de son entreprise, bien, il va vendre 50% de ses parts au groupe Fiat en 1969. Entre-temps, bien, la Scuderia Ferrari va connaître vraiment des fortunes diverses. Là. Il va avoir des bons moments, mais il va en avoir des moins bons. Elle a été battue par Ford en 1966 aux 24 heures du Mans. Puis après avoir été battue par Ford, Ferrari ne remportera plus jamais cette épreuve-là. Et pourtant, Le Mans, c'était une de ses épreuves fétiches. Et ça va tellement ébranler Ferrari que la Scuderia va se retirer finalement des courses d'endurance pour se concentrer uniquement sur la Formule 1 à partir de 1975. La Scuderia va aussi connaître ses traversées du désert en Formule 1, hein, parce que il va s'écouler 11 ans entre le championnat de John Surtees en 1964 et celui de Niki Lauda en 1975. Et ensuite, encore plus long, il va s'écouler 21 ans entre le championnat de Jody Scheckter en 1979 et Michael Schumacher en 2000. Et en ce moment, la Scuderia traverse une autre période d'insuccès parce que ça fait exactement 10 ans cette année qu'un de ses pilotes n'a pas été champion du monde. Le dernier, c'est Kimi Raikkonen en 2007. Mais il n'en reste pas moins que la Scuderia Ferrari détient la plupart des records de la Formule 1. Hein? 16 championnats des constructeurs, 15 championnats des pilotes, au-dessus de 220 victoires en Grand Prix. Et puis, évidemment, je te parle j'ai mentionné le mot tragédie à plusieurs reprises dans l'histoire d'Enzo Ferrari. C'est sûr que la course va amener, elle aussi, son lot de tragédies. Il y a plusieurs pilotes qui vont se tuer au volant d'une Ferrari. Ascari, De Portago, Castellotti, Musso, Peter Collins, Von Trips, Bandini, la liste est longue, là. Mais c'est vraiment la mort du pilote québécois Gilles Villeneuve en 1982 qui va ébranler probablement le plus Enzo Ferrari. Enzo Ferrari qui va aller, qui n'est pas un sentimental, hein, c'est important de le dire, là, et qui va aller jusqu'à dire « je l'aimais comme un fils ».
Et ouais, ça, c'est gros.
C'est énorme. C'est énorme quand on sait en plus ce que ça veut dire un fils pour lui. Hein.
Exact.
Et malgré les traversées du désert, malgré les drames, la compétition, ben, c'est vraiment au centre de l'univers d'Enzo Ferrari. C'est ce qui donne un sens à sa vie. Il n'a jamais caché que ses activités de constructeur de voitures de sport haut de gamme avaient comme unique fonction de financer son écurie de course automobile. Mais il n'en demeure pas moins que la marque Ferrari a survécu au décès d'Enzo Ferrari en 1988. C'est d'ailleurs à partir de sa mort qu'il y a eu une spéculation effrayante sur les Ferrari de collection. On va en parler dans le prochain bloc. Mais faut quand même mentionner, en terminant, Daniel, que le successeur d'Enzo Ferrari, Luca di Montezemolo, a vraiment permis à Ferrari de connaître une renaissance dans les années 90. Parce que dans les années 80, le côté qualité, ça baissait beaucoup. Et la qualité, entre guillemets, artisanale des Ferrari, là, ça commençait à passer de moins en moins. Et là, ben, pour ses 70 ans, on peut dire que Ferrari, vraiment, là, affiche une santé resplendissante. C'est une marque qui atteint des sommets historiques de production. On est autour de 8000 véhicules par année, ce qui est le double de ce que c'était il y a une vingtaine d'années. Moi, en 98, j'étais allé à l'usine à Maranello et à ce moment-là, Ferrari faisait à peu près 4000 voitures par année. Ils ne voulaient pas dépasser 5000. C'était hors de question. C'était pour garder aussi la rareté. On sait que depuis que Sergio Marchionne est devenu le grand patron du groupe Fiat Chrysler et qui dirige aussi Ferrari, il aimerait amener la production à 9000. Mais au moins, on ne dépasse pas les 10 000 voitures, ce qui conserve quand même une certaine exclusivité, et je devrais même dire une exclusivité certaine au Ferrari. Puis en terminant, ben, la rentabilité, mon cher Daniel, hein, ça ben c'est en croissance constante. Alors presque 30 ans, hein, à une année près, presque 30 ans après sa mort, on peut dire que l'héritage d'Enzo Ferrari continue de fructifier. Au propre comme au figuré. Oui, c'est ça.
Sans l'ombre d'un doute. Et la rumeur évidemment, là, les grands constructeurs de très haute gamme sont passés au sport utilitaire.
Malheureusement.
Alors, si Ferrari va dans la même direction, on va pouvoir ajouter les 1000 modèles qui manquent pour M. Marchionne. Et ça ne m'étonnerait pas que, évidemment, on veut faire de l'argent, on veut aller un peu plus loin.
Et Ferrari
qui a probablement passé par là.
Puis Ferrari qui a été inscrit en bourse aussi depuis l'arrivée de Sergio Marchionne, qui a d'ailleurs à la bourse, Ferrari a été littéralement séparé du groupe Fiat Chrysler. C'est devenu une entité indépendante en bourse. Alors effectivement.
Et ça veut dire beaucoup pour le reste de la marque.
Ben c'est ça. Si on veut faire augmenter la capitalisation boursière de Ferrari, peut-être qu'on va y aller avec un VUS. Mais ça, attention, hein, ce serait considéré comme un sacrilège par les puristes. Alors qui aura raison?
On va devoir aller te chercher. Tu vas être en boule, en position fœtale.
Non, parce que je m'y prépare déjà psychologiquement. Okay. Je le sais qu'avec Sergio Marchionne, tout peut arriver. Ça,
OK. On va te garder. Ton équilibre mental va rester avec nous autres.
Tu sais, merci. Ce qu'il en reste. Oui.
On se parle tantôt.
Salut, Daniel.
Bye-bye.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360. Avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, juste avant de vous parler, entre autres, de la Hyundai Accent, je vous donne les numéros pour nous parler. Donc, pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330 ou encore ailleurs, 1-866-790-9850, Auto 360 à cogecomedia.com. Et j'ai une question via Auto 360. Marc, la Hyundai Accent, tu es allé faire l'essai de cette petite voiture-là. Ici, je me fie à mon essai de la Rio, la toute nouvelle Kia Rio 2018. Ça risque d'être prometteur. Est-ce que tu as vu quelque chose d'intéressant avec la nouvelle Accent?
Totalement. C'est une voiture qu'on a bien réussi. On s'est basé pas mal sur ce qu'on avait fait avec l'Elantra, la fameuse superstructure avec de l'acier de différentes densités. C'est donc beaucoup plus rigide, beaucoup plus agréable en conduite, plus spacieux que ce à quoi je m'attendais. Disons que ça fait quelques années que j'ai perdu ma taille de jeune fille et que le gars qui m'accompagnait n'était pas nécessairement moins imposant que moi. Et tous les deux dans la voiture, on a eu de l'espace en masse, sérieusement. Oui. Donc, on s'est jamais heurté les épaules. C'est un petit véhicule, 1,6 litres, 4 cylindres, 130 chevaux. C'est pas évidemment particulièrement performant, mais c'est amplement suffisant pour les besoins de la voiture. Beaucoup d'équipements comme Hyundai, ce à quoi Hyundai nous a habitués. Et la raison pour laquelle on le fait au Québec, et ça m'a beaucoup surpris, 45% des Hyundai Accent sont vendus au Québec, dont 30% dans la ville de Montréal même. Ah, oui. C'est vraiment là, c'est une auto qui est faite pour nous. Évidemment, celle que nous, on a essayé C'était la version berline qui arrive au mois de janvier 2018. Il y aura à compter du mois d'avril une version 5 portes. Et elle, ben écoute, c'est celle-là qui marche chez nous. 65% des ventes sont faites avec la version 5 portes. Et bien sûr, bon, là, on a différentes versions aussi, là, allant de la L manuelle avec les fenêtres manuelles jusqu'à la GLS qui est la plus équipée avec un système multimédia qui est nettement plus efficace. Bref, dans l'ensemble, c'est une refonte qui est vraiment réussie, un peu à l'image de ce qu'on fait avec la Elantra. En termes de look, on dirait d'ailleurs une petite Elantra. Alors honnêtement, c'est très bien. Le seul bémol, la faiblesse que tout le monde se plaignait, c'était la consommation d'essence qui était trop élevée. On dit qu'on l'a améliorée de 7%. Honnêtement, j'ai pas été capable de faire mieux que 7,3 litres au 100. C'est beaucoup pour une voiture de cette taille-là et mes collègues ont fait la même chose.
Si on parle au niveau de la sécurité, parce que avec la Rio, entre autres, avertisseur de changement de voie, tu sais, c'est des éléments qu'on ne retrouve pas dans les sous-compacts de cette taille-là. Est-ce qu'on a incorporé aussi cette sécurité-là dans le véhicule, freinage automatique et tout?
Oui, mais pas tous les éléments, et uniquement sur la version GLS, qui est la version la plus haut de gamme. Les autres ne l'ont même pas en option. Comme la GLS arrive avec des roues de 17 pouces, c'est celle qu'on essayait. Évidemment, ça crée une tenue de route qui est intéressante, mais les autres versions arrivent avec du 15 pouces. Donc, tu sais, il y a un paquet d'options comme celle-là qui sont disponibles uniquement sur la version haut de gamme, dont on ne connaît toujours pas le prix, d'ailleurs. Le prix sera annoncé seulement en janvier, au moment de l'arrivée du véhicule.
Parfait. Alors, juste avant la pause, on va prendre Connor qui est en ligne. Conrad, excusez.
Oui.
Allez, Conrad, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, j'aimerais savoir lequel des deux voitures, des SUV, là, entre le CR-V et le RAV4, meilleur confort?
Le confort, ça va être à peu près équivalent. Je pense qu'on sent légèrement plus d'espace un peu dans le RAV4, mais est-ce que vous c'est acheté pour longtemps, pour faire que de la ville? Est-ce que vous faites du remorquage avec le véhicule?
Non, le seul remorquage, c'est une remorque, mais c'est occasionnel, c'est pas tout le temps.
C'est pas tout le temps, mais c'est occasionnel. Oui. C'est pas recommandé vraiment avec le CR-V, la transmission en variation continue. C'est deux excellents véhicules-là, c'est deux premiers de classe. Vous allez directement là dans les deux premiers, c'est impossible de vous tromper avec les deux véhicules. Par contre, si vous pensez charger des fois assez lourd dans la remorque, je pense que le RAV4 va être mieux adapté pour vous. Sa conception moteur-transmission va vous rendre davantage de service. Le CR-V, ses sièges, c'est superbe la façon dont il est aménagé. Son petit moteur est économique. Je l'aime bien aussi en conduite. Il est un peu plus stable sur la route et surtout, je dirais pas sportif parce que ça s'adapte pas vraiment. Là, Marc, c'est pas sportif,
non,
mais
pas
au
tout.
Moins, tu sens peut-être un petit peu plus la chaussée avec le CR-V.
Effectivement, en fait, la seule qualité du RAV4 par rapport au CR-V, c'est sa capacité de remorquage. Moi, j'avoue que j'aime mieux la conduite du CR-V. J'aime mieux la façon dont il est fait à l'intérieur aussi. Je trouve que les commandes sont plus faciles à consulter sur le CR-V. Honnêtement, moi, j'opterais pour le CR-V, mais comme vous dites, si vous remarquez, le CR-V, c'est zéro. C'est totalement interdit, alors vous avez comme pas beaucoup de choix là-dessus.
Merci c'est beaucoup. Bon. Alors, Michel est en ligne. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Bonjour. À vous?
Oui, je vous en prie, j'appelle parce que là, j'ai un doute entre une BMW X3 et une Acura modèle 2,3 litres. Donc, je ne sais pas laquelle choisir au niveau de la fiabilité.
Vous m'avez dit Acura, je n'ai pas compris votre premier modèle, je suis désolé.
Acura modèle 2,3 RVX.
Oui.
Et donc, c'est la BMW X3.
Oui.
Okay. Bien, moi, j'y vais avec... si vous pouvez vous permettre un X3, sport utilitaire, traction intégrale, pour nous ici, avec nos conditions, évidemment, je pense que c'est un véhicule qui pourrait vous rendre de précieux services.
Sauf qu'en matière de fiabilité, le Acura, si c'est uniquement la fiabilité qui vous préoccupe, coût d'entretien, l'Acura va être plus avantageux, va coûter moins cher. Si cependant vous regardez le plaisir de conduite, ben là, allez-y comme Daniel vous le dit, moi j'aurais un faible pour le X3 aussi.
Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors Luc est en ligne. Bonjour Luc.
Bonjour.
Bonjour.
Moi j'hésite entre le Escape et le nouveau terrain là, de GM, le 2 litres turbo.
Et l'Escape, c'est le 2 litres turbo également?
Oui, c'est ça. Lequel? T'as souvent tracté un peu aussi, là? Fait que GM, c'est un nouveau modèle.
GM, c'est un nouveau modèle, mais c'est de la mécanique pas mal connue. J'aurais vraiment pas peur de ce véhicule-là. Il m'a impressionné. Et vraiment, là, j'ai tracté avec ce véhicule. J'avais une remorque à l'arrière, une genre de petite Airstream. Là. Il avait mis une nouvelle Airstream courte, mais version très courte. D'ailleurs, j'ai bien aimé ce modèle de roulotte-là. Et j'ai tracté avec ce véhicule-là le terrain, le nouveau terrain. Et j'ai vraiment aimé la motorisation, la façon que la transmission s'est comportée. Suspension peut-être un petit peu molle, mais rien de majeur. Alors, autant au niveau du freinage, de l'accélération, j'ai aimé tracter avec ce véhicule-là et il est directement dans la même mire que l'Escape. Je pense qu'on a fabriqué ce véhicule-là directement pour concurrencer l'Escape 2 litres et dans les performances, dans le rendement, ces deux véhicules qui se ressemblent énormément. Alors moi, j'aurais pas peur et même je le mets à peu près au pied d'égalité de l'Escape. Je sais que l'Escape, est, au niveau des coûts d'entretien, il a gagné, je pense, là, le véhicule qui coûte le moins cher à entretenir dans cette catégorie-là. Alors, c'est deux véhicules très, très près un de l'autre. Puis je me dirais, là, allez l'essayer. Certaines personnes, vous savez, les boutons transmission qui sont rendus chez GM, là, certaines personnes, ça peut vous agacer. Donc, vous allez voir si vous aimez mieux un modèle ou l'autre, mais c'est deux très, très près.
L'économie, c'est pas mal pareil ou...
Oui, les deux sont à peu près similaires. Peut-être le GM est un peu plus économique, je vous dirais. Dans la façon dont le moteur est configuré, que la transmission fonctionne, il est un petit peu plus économique que l'Escape, mais c'est pas aussi significatif comme différence.
C'est le même moteur que le Cadillac ATS?
C'est le même moteur, effectivement.
OK, fait que le moteur serait fiable.
Oh oui, le moteur a été prouvé. Moi, j'ai pas de problème niveau moteur-transmission. Autant chez Ford qui a fait ses preuves à venir jusqu'à maintenant que du côté du terrain. Alors, deux véhicules très, très près. Allez voir lequel vous aimez le mieux. Vous trouvez le plus cute. Et là, ils vont vous faire aussi le même prix parce que si je regarde au niveau des équipements, ils arrivent à peu près nez à nez également. Alors, effectivement, on a deux concurrents. On s'arrête là-dessus puis on vous revient. Restez avec nous.
Au Cogeco, vous écoutez Auto 360 avec Daniel Boudreau.
On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là.